faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
n'arrête pas l'écho. Le débat.
Les dépenses de sécurité sociale, c'est 500 milliards. 500 milliards, 400 millions d'euros de déficit, c'est une première. On retrouve là des chiffres qui sont inédits depuis le début des années 2000.
L'horizon du rétablissement complet de l'équilibre des comptes de la Sécu, il c'est plus une utopie.
Il y a un redressement.
Eh bien oui, ça va mieux.
Les prévisions, c'est un art difficile. Nous ne sommes pas sur 1,2 pour 2017.
États-Unis, entre 1,9 et 2,1.
Plutôt 1,9.
1,8% par an.
Plutôt un taux de croissance légèrement au-dessus de 1,5.
Tout ça, c'est des chiffres et des débats la mormoneux.
Et là, le 2,1 sera plutôt 2,35.
Quelle est la situation du régime d'assurance chômage? En 2017, 35 milliards de déficit.
De dette.
De dette. Si mon souvenir est exact.
Vous savez bien que ce n'est pas le régime général, mais ce sont les régimes spéciaux.
Attendez.
Il y a un redressement.
Eh bien, oui, ça va mieux.
Et là, le 2,1 sera plutôt 2,35.
Quel maelstrom. On a entendu les politiques Christian Eckert, Marisol Touraine, Nicolas Sarkozy et le président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Et puis on a entendu des économistes, Éric Heyer et Jean-Hervé Lorenzi, Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre. On va être méthodique hein, pour ne pas se laisser noyer par les chiffres. On commence avec le dossier Sécu. La gauche a sauvé la Sécu, la fin du trou de la Sécu. Christian Chavagneux, d'abord le périmètre, de quoi est-ce qu'on parle avec la Sécu?
Alors, quand on parle de la Sécu, on parle en fait de quatre choses différentes. Il y a les accidents du travail, les maladies professionnelles. Ça, c'est excédentaire déjà depuis 1 ou 2 ans. Vous avez les retraites, hein, c'est quand même, ça nous intéresse au premier chef. C'est un quasi-équilibre en 2015. Ça va être excédentaire cette année. Vous avez aussi la branche famille. Là, il y a un déficit qui est en très très forte baisse. Et Marisol Touraine nous dit ça va être en équilibre en 2017. Et puis il y a ce qu'on appelle nous généralement la Sécu, qui est l'assurance maladie, en fait les médicaments qu'on nous rembourse. Ça, le déficit, il reste assez important. C'est la plus grosse masse des dépenses des quatre. Et là, on nous dit l'équilibre pour 2017. Donc on se retrouve avec la fin des déficits de la Sécu, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus de dette sociale, parce qu'il y a
ça,
plein
c'est un
de déficits
peu sous le tapis, ouais.
Avant. Et donc il y a encore à la fin 2015 150 milliards de dette sociale. Mais la Cour des comptes nous dit à l'horizon 2019 120 milliards. Donc voilà le portrait un peu général.
Emmanuel Le Chypre, est-ce qu'on a eu vraiment une bonne nouvelle avec les chiffres donc de la Sécu cette semaine? Qu'est-ce qu'on doit retenir?
Bah, les chiffres en eux-mêmes, effectivement, ils sont bons. Hein. Il faut rappeler qu'on vient quand même d'un trou de 13 milliards en 2012 et que là, on est à un peu plus de 3 milliards. Donc, c'est très bénéfique et on nous promet quasiment l'équilibre pour l'année prochaine. Alors, il y a plusieurs explications. Bah, la première, c'est que d'abord, il y a quand même une petite reprise de l'emploi qui fait que ça provoque des rentrées de cotisations supplémentaires. Côté retraite, Christian l'a dit, c'est positif parce que les réformes successives commencent à porter leurs fruits. Il y a des petites manips comptables hein, quand même, parce que dans tous ces budgets, il y en a un peu. Par exemple, le gouvernement va comptabiliser cette année 700 millions de CSG qui étaient normalement dus en 2015. Il va les compter en 2016. Et puis n'oublions pas que si les comptes de la Sécu se redressent, c'est que mis bout à bout, tous les prélèvements supplémentaires acquittés, alors pas seulement par les particuliers, mais aussi par les entreprises de médicaments, etc., c'est quand même 20 milliards d'euros depuis 2012. Donc il faut pas s'étonner non plus que les comptes quand même soient en assez sensible amélioration.
Oui, c'est ça la leçon. La leçon, c'est quand même, je reviens là-dessus, il y a quand même la dette de 156 milliards. Moi, ça a pas l'air de vous inquiéter trop, non, Christian?
Non, 150 milliards, c'est rien du tout. En plus, la Cour des comptes nous dit que ça va baisser. Donc c'est non, mais c'est tout à fait gérable.
On a Emmanuel Le Chypre qui vient de nous quitter.
Bah, évidemment, une dette pour lui, c'est toujours une dette publique, surtout, c'est toujours un gros problème. Non, c'est tout à fait gérable pour la France. Les bonnes nouvelles, c'est vrai qu'il y a des nouvelles du côté des recettes, mais il y a aussi des bonnes nouvelles du côté, enfin des bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles du côté des dépenses aussi. Il faut quand même distinguer hein, la retraite, l'assurance maladie, tout ça. La retraite, je pense que ça y est, il faut arrêter. Il faut arrêter toutes les candidats de droite qui nous disent qu'il faut encore monter l'âge de la... Stop ! On est à l'équilibre, messieurs les candidats de la primaire de droite. On est à l'équilibre entre 93 et 2014. On n'a pas arrêté de faire des réformes, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui commencent à partir à la retraite, qui touchent moins à la retraite que ce que la génération précédente touchait. C'est une rupture historique totale en termes de chiffres. Donc, ça y est, les comptes de la retraite, on les a équilibrés, il faut pas aller plus loin parce qu'on commence à avoir des vieux retraités pauvres, ce qu'on avait complètement fini par éliminer grâce au minimum vieillesse. Et donc là, il y a un petit machin technique à préciser. Quand on dit les comptes de la retraite sont en équilibre et vont mettre excédentaire, il y a un petit machin en plus qui s'appelle le Fonds Solidarité Vieillesse qui lui est très déficitaire. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Ce qu'on donne aux retraités pauvres, et puis ils prennent la place des chômeurs. Quand les chômeurs ont plus de boulot, ils cotisent quand même pour eux. Et là, ça fait un gros déficit qui nous reste. Mais pourquoi? Parce qu'il y a du chômage, tout simplement. Et donc, les réformes de la retraite, ça a fait quoi? Eh ben, ça a fait que on paie plus pour toucher moins, mais plus longtemps. Donc ça, voilà, on en a le résultat comptable sur les comptes. Et puis quand même, faut pas oublier tous ces seniors qui sont au chômage. Parce qu'on l'âge de la retraite étant repoussé, les gens de plus en plus vieux doivent rester sur le marché du travail. Mais comme les entreprises veulent pas les embaucher, il y a de plus en plus de chômage des seniors, ce qui fait qu'on a pris un peu des dépenses de la retraite, qu'on a refilé à l'UNEDIC. C'est aussi ça qui contribue à l'amélioration des comptes pour la retraite.
Bon, alors la retraite, la leçon générale, c'est que Christian, quand même, les réformes paient.
Ouais, c'est pas aussi rose que ce que Christian dit sur la retraite. Effectivement.
Bah, il est pas trop rose, Christian, sur la retraite.
Les retraites baissent et que du coup le régime est à l'équilibre. Ça montre bien qu'effectivement les efforts qui ont été faits se traduisent par une baisse du niveau de vie des retraités. Mais est-ce qu'on peut juger que c'est satisfaisant? Non. Il y a des réformes à faire qui font que si. Alors quand Christian dit le problème c'est le chômage, entièrement d'accord. Et notamment le chômage des seniors. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'étranger dans tous les pays où on a repoussé l'âge de la retraite? C'est que vous avez mécaniquement en quelques années un changement de comportement des salariés et des entreprises qui font que l'âge réel de départ à la retraite recule lui aussi. Donc la réalité, quoi qu'on en dise, que ce soit à cause du marché du travail ou à cause des réformes, il faudra de toute façon travailler plus longtemps sur la durée de sa vie si on veut assurer la pérennité du système de retraite.
Et quand Christian s'adresse aux candidats de droite et dit « Messieurs, arrêtez de vouloir encore nous repousser l'âge de la retraite », Emmanuel, vous en pensez quoi?
Je pense que c'est une erreur. Il faut continuer à repousser l'âge de la retraite.
Ça sert à rien du tout, Emmanuel. On a l'excédent.
Ça permet de faire travailler aujourd'hui, on a l'excédent.
Le déficit était la justification Christian, de la régression sociale. Ça n'existe plus aujourd'hui.
Les tendances démographiques font que on peut pas se préoccuper de la photo aujourd'hui. Il faut regarder le film qui nous attend.
C'est structurel avec les réformes. C'est ça qui est important. C'est que le trou il n'y a plus de déficit de la retraite et c'est pour des raisons structurelles. On a réglé le problème.
Et pour le reste, la situation est peut-être meilleure, mais on voit déjà la tentation qui est de lâcher les cordons de la bourse sur la Sécu pour l'année prochaine.
Vous parlez de l'objectif de dépenses, l'ONDAM.
C'est-à-dire que là, déjà, on a une revalorisation des traitements de fonctionnaires des hôpitaux, 400 millions. Les tarifs de consultation des généralistes, revalorisés, plus de 400 millions. Vous avez tous les professionnels de santé qui font la queue au guichet, les hôpitaux publics, 300 millions. Les cliniques qui veulent 250 millions. Les généralistes MG France qui veulent le forfait pour leur fonctionnement versé par la Sécu qui augmente. Donc, allez,
et tout ça va faire combien? Ça va faire combien? Plus 2,1% Emmanuel de dépenses, c'est historiquement bas. Ces 2%, c'est historiquement bas.
Il faut peut-être aussi dire que si on a réussi à faire des économies sur l'assurance maladie, c'est parce qu'on a sérieusement serré les cordons et qu'à un moment donné, il y a trop de tensions. Il y a des gens qui demandent en effet de revoir les économies et de réorienter.
Alors, là, on a vu les retraites, il faut regarder, je pense, d'un peu plus près, vraiment les médicaments, ce qu'on appelle vraiment la Sécu. Il y a eu une vraie maîtrise des dépenses, ça c'est clair. Les prix des médicaments ont baissé. Il y a eu un meilleur contrôle des prix de la part de l'État, plus de génériques de la part de l'État. Et là, vraiment, il y a une politique de droite et une politique de gauche. Contrôle public des prix par la gauche, des remboursements ont fait payer encore plus les ménages par la droite. Il y a eu deux façons de rééquilibrer, et là, je pense que on peut faire crédit au gouvernement. Ils ont contribué, parce que c'est pas les seuls, bien sûr, mais ils ont contribué à baisser le prix des médicaments par une bonne intervention publique. Pour l'hôpital, on fait des économies à l'hôpital, mais là, c'est parce que ces pressions sur le personnel, c'est parce qu'on les a pas augmentées. Emmanuel dit tout le monde vient au guichet, mais attendez, un boulot d'infirmière, c'est incroyable qu'on les ait pas augmentées, qu'elles réussissent à travailler aussi bien. Donc c'est normal qu'on leur redonne un petit peu aujourd'hui, que les comptes vont un peu mieux. Et puis quand même, toutes les études nous disent qu'il y a un moindre recours aux soins. Il y a quand même des gens pour qui, on rembourse moins parce qu'ils vont pas chercher, ils peuvent pas avoir les dépenses minimales avant qu'on les rembourse.
Donc la faute, oui, Emmanuel.
Non, mais la réalité, c'est qu'on ne traite pas les problèmes. Effectivement, Marisol Touraine avait dit « Je ne serai pas la ministre des déremboursements ». Elle l'a été. Mais les vrais défis du système de santé, franchement, on ne s'en occupe absolument pas.
C'est-à-dire ?
Le fait que, par exemple, regardez ce que dit le rapport des comptes sur les soins dentaires. Les Français sont aujourd'hui en Europe ceux qui se soignent le moins bien au niveau des dents. C'est quoi les grands défis de la Sécu ? C'est des défis... le vieillissement, c'est quand même un défi considérable. vulnérables. Vous avez les plus de 80 ans, on sait très bien qu'ils seront deux fois plus nombreux dans les années qui viennent. La moitié touche de l'argent pour des affections longue durée. Comment on va faire pour financer tout ça? On sait très bien que les maladies d'aujourd'hui, ce ne sont plus les maladies infectieuses, c'est les maladies chroniques. Voilà, on sait qu'il y a une révolution technologique qui se prépare. Qu'est-ce qu'on fait pour anticiper tout ça? Rien. Le résultat, c'est quoi? C'est que comme on a été incapable de prendre les bonnes décisions, on a mis tout ça dans les mains des mutuelles, notamment mutuelles aujourd'hui qui vivent grassement et qui sont en plus en train de se comporter de plus en plus comme des sociétés d'assurance. C'est-à-dire qu'en gros, vous payez en fonction de votre risque, ce qui est la négation totale de l'esprit du système de santé français hérité de la guerre. C'est ça le vrai esprit de solidarité. Bon bah... Et donc on est en train complètement de tuer notre système et sa philosophie parce qu'on n'a pas le courage de s'attaquer aux véritables problèmes d'organisation à l'hôpital, sur les gaspillages de médicaments, etc., etc.
Alors là, on a une photo très précise, la santé, on a amélioré les comptes, mais on est en train de tuer l'esprit du système. Christian, un mot là-dessus.
Ouais, un petit mot là-dessus, je suis d'accord et pas d'accord avec Emmanuel, d'accord, enfin pas d'accord parce que quand on regarde, quand on dépense de l'argent pour les médicaments, il y a ce que la Sécu nous rembourse, il y a ce que les mutuelles nous remboursent, vient de parler Emmanuel, et puis il y a le reste à charge que nous on doit quand même payer. Le reste à charge aujourd'hui, c'est 8,5% hein, de ce qui est dépensé, c'est-à-dire c'est le deuxième plus bas d'Europe. Donc vraiment, a priori, les ménages français sont ceux qui sortent le moins de leur poche. Pratiquement tout est collectivisé. Mais une bonne partie, c'est effectivement la Sécu. Mais comme l'a dit Emmanuel, pour en gros 10-12%, ce sont les complémentaires. Et donc, on assiste à quoi? À une privatisation rampante.
Partielle,
en tout cas.
Un désengagement
du public. Et là, on est le deuxième plus haut au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire que vraiment, il faut faire des choses sur les paniers de soins. Pourquoi il y a des médicaments qui sont remboursés à 5% ou à 10%? Soit le médicament, il vous sert à quelque chose et vous le remboursez, soit il vous sert à rien et vous donnez pas 5-7%. Vous voyez bien qu'il faudrait définir un panier de soins. Il y a les contrats responsables pour les mutuelles. Le gouvernement a quand même essayé de dire, ok, vous les mutuelles, on va vous aider d'autant plus que vous choisissez le bon opticien, le bon dentiste, celui qui coûte moins cher. Donc ça va quand même dans le bon sens. Et puis il y a quand même tout ce qu'il y a à faire par l'hôpital. Et là, il y a des réformes de structure parce que le fait que Marisol Touraine ait poussé ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est-à-dire le fait d'être soigné plutôt chez vous plutôt qu'à l'hôpital, ça va aussi dans le bon sens.
On doit encore parler du budget, du cadrage du budget, dire un mot des chiffres génétiques. Tu as senti un chiffre, Emmanuel.
On a quand même une dégradation de l'accès aux soins des chômeurs et des pauvres qui est vraiment inadmissible dans un système comme le nôtre. Je vous donne juste un chiffre pour montrer un petit peu cette perversion de l'esprit initial. En 2013, il y a plus que 12% des personnes couvertes par les contrats les plus souscrits des mutuelles qui ont payé une cotisation qui ne dépend pas de leur âge. Donc vraiment solidaire, c'était 3 fois plus en 2006, 36%. Donc vous voyez qu'on va de manière accélérée vers un système, j'ose pas dire à l'américaine, mais enfin sans le dire. Et c'est ça la vraie perversion aujourd'hui.
C'est le manque de débat sur le changement que nous sommes en train de
bien
vivre.
Bien sûr.
Et sur le fait que ça doit rester collectif.
Exactement.
Et les mutuelles d'entreprise, le fait que l'employeur abonde, qu'il y a une mutuelle, c'est un progrès ou pas un progrès ça?
Oui, bien sûr, je pense que ça va dans le bon sens, mais ça nous coûte aussi un petit peu, mais ça élargit la couverture sociale par la mutuelle, c'est vraiment bien. Il faudrait pas que les candidats primaires de la droite, je disais, mais c'est eux qui mettent aussi ça dans le débat, nous disent, comme monsieur Alain Juppé, je ne veux pas casser le modèle social français, je veux juste diminuer les dépenses là-dessus,
ça
notamment
veut dire,
pour la
CME. Il faut juste quand même aller voir comment se comportent les mutuelles, si on veut que tout le monde en ait, ce qui part effectivement d'une bonne intention.
Allez, le budget 2017 maintenant, l'autre gros dossier qu'on a eu sur la table cette semaine. Le cadrage, ça veut dire ce que le gouvernement, ce que Bercy prévoit pour 2017, ça veut dire les prévisions de croissance, ça veut dire est-ce qu'on respectera ou non le déficit. Qu'est-ce qu'on retient, messieurs, de ce cadrage du budget 2017 qui démarre?
Moi, je veux bien, c'est enfin un budget rusé, quoi. Vraiment, vraiment, ça, c'est le budget qu'il faut. Pourquoi? Parce que la reprise, elle est fragile aujourd'hui, hein. Donc, il faut la consolider. Est-ce que l'État peut aider à consolider la reprise? Ben oui, il va augmenter les dépenses. 9 milliards, hein, la prime à l'embauche, les emplois dans la police, la défense, etc. On va augmenter les profs, un peu plus d'argent pour les communes et pour l'investissement des communes. Tout ça, ça va faire de l'emploi, du pouvoir d'achat, de la relance. C'est exactement ce qu'il faut au moment où on a une petite reprise qui est un peu fragile. fragile. Bien évidemment, si vous donnez d'un côté et que vous reprenez de l'autre, ça sert à rien. Donc, comme disent les économistes, si les nouvelles dépenses sont financées tout de suite, ça sert à rien. Faut laisser creuser un peu le déficit. Est-ce qu'on peut trouver un truc qui ne creuse pas le déficit, voire qui continue à le faire réduire, et pourtant qui va moins impacter sur l'économie? Ils ont trouvé. C'est pour ça que je dis que c'est rusé. Ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils vont repousser à l'année prochaine des prélèvements. Ils vont, en fait, on devait avoir une baisse d'impôt sur les sociétés. On l'a transformée en baisse de charges. Donc, les entreprises en 2017 vont l'avoir tout de suite, la baisse de charges.
Mais ce sera
un crédit d'impôt en 2018. Voilà. On a trouvé le truc. Mais qui est génial. On va baisser le déficit. On va relancer l'économie. Et pourtant, on a réussi à pas trop piquer sur l'économie. Donc, tout ça va contribuer à relancer. C'est bon. C'est le bon pari. Et notamment, si ça marche, eh ben, ça paiera en 2018 la petite excès de dépenses 2017. Enfin, un budget rusé.
Alors, et les chiffres, c'est 1,5, je donne quand même le cadrage, c'est 1,5% de croissance prévu en 2017 et un déficit à 2,7%, donc sous la barre fatidique des 3%.
On va pas s'attarder sur le budget lui-même. On sait très bien que c'est un budget qui sera fortement amendé, qui que soit le vainqueur de la présidentielle, par un collectif budgétaire à l'été 2017, même si c'est la gauche qui est au pouvoir. Donc, les petites astuces, Christian les a citées. Je cite aussi, pour un petit millier de grandes entreprises, l'anticipation du paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, pof, 400 millions.
Rusé, a dit Christian.
Juste quand même, 1,3 milliard de prélèvements encore non documentés, mais une petite ligne comme ça, plus 1,3 milliard de hausse d'impôt, alors on sait pas qui ça va toucher. Et puis juste pour terminer sur le cadrage budgétaire, c'est vrai qu'on nous dit, on prévoit 1,5% de croissance l'année prochaine, comme cette année, donc ça paraît raisonnable. Autant cette année, c'était vraiment très raisonnable, parce qu'on aurait même pu faire presque 2% de croissance s'il n'y avait pas eu les attentats, le Barnum El Khomri, les inondations, etc.
Là, c'est la prévision d'Emmanuel, il n'est pas content, il avait prévu 2, on va faire 1,5.
Non, mais franchement, on va faire 1,5 et on aurait pu les faire, avec sans tout ça qui coûte 1,5 point. L'année prochaine, c'est plus compliqué parce que je vous rappelle que cette bonne croissance quand même de cette année, c'est l'effet de la baisse des taux, de la baisse du pétrole, de la baisse de l'euro. Et ça, on ne les a plus en termes de coups de fouet. Donc les 1,5% du budget de l'année prochaine, eh ben, ils sont pas si faciles que ça à atteindre.
Alors, un dernier mot sont les chiffres de l'UNEDIC. Qui me dit, on a eu les prévisions, j'ai promis aux éditeurs qu'on disait un mot. Qu'est-ce qu'on retient des prévisions de l'UNEDIC, Emmanuel? Pour vous.
On retient que ça conforte l'idée que les prévisions de croissance pour l'année prochaine sont peut-être un peu trop optimistes.
Et que le chômage donc baisserait jusqu'à fin 2016, mais augmenterait à partir de 2017.
Exactement. Et rappelons encore que si on prend les cotisations UNEDIC et ce qui est redonné, l'UNEDIC est excédentaire. Merci.